Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour votre journal d'actualité. Voici les informations essentielles de ce matin. Mali, liberté provisoire pour 11 opposants au pouvoir. Alors qu'au Niger, l'ONG AEC exige la libération de son directeur. Ghana, une présidentielle sous le signe de la relance économique. Sierra Leone, une campagne de vaccination anti-Ebola 10 ans après la tragédie. Je prendrai mes responsabilités jusqu'en 2027, dit le président français face à la crise politique. En magazine, nous irons à la rencontre des migrants à Agadir qui vivent entre quête de stabilité et rêve d'Europe. En économie, reprise du trafic sur le corridor Douala-Bangui et puis en sport, Cannes féminine de handball, le tableau des demi-finales à Kinshasa et l'analyse de Papi Katassi sur la défaite de la RDC, mais d'abord le journal. La justice malienne a accordé une liberté provisoire à 11 opposants arrêtés en juin pour complot contre les autorités légales et réunion illégale après avoir demandé un retour des civils au pouvoir. Parmi eux figurent d'anciens ministres et des leaders politiques. Nous sommes tous rentrés à la maison. Le procureur nous a dit que c'est une liberté provisoire, mais sans contrôle judiciaire et sans restriction de voyage, a dit sous couvert d'anonymat un des opposants libérés. Les arrestations avaient eu lieu alors que les partis politiques étaient sous une interdiction levée en juillet. Ces opposants avaient dénoncé le vide institutionnel laissé par les militaires au pouvoir et réclamé une élection présidentielle rapide. L'ONG nigérienne Alternative Espace Citoyen, AEC, exige la libération immédiate de son directeur, Moussa Tchongari, arrêté mardi à Niamey et placé en garde à vue au service antiterroriste. L'ONG dénonce son arrestation par des hommes armés en civil et considère cela comme une atteinte aux droits humains. Monsieur Tchongari, critique du régime militaire en place, est accusé d'apologie du terrorisme, d'atteinte à la sûreté de l'État et d'association de malfaiteurs en lien avec le terrorisme, d'après AEC, citant son avocat. Moussa Tchongari avait qualifié le coup d'État de recul de la démocratie et avait exprimé son soutien à l'ex-président Mohamed Bazoum, toujours détenu avec son épouse. Le Ghana élit demain samedi son président et ses députés. La campagne s'est concentrée sur l'économie après qu'une crise de la dette, une chute de la monnaie et une inflation à deux chiffres ont entraîné un défaut de paiement. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
La course à la présidentielle se joue entre le candidat du New Patriotic Party, NPP, l'actuel vice-président Mahamudu Bawumia et l'ancien président et porte-drapeau du NDC, John Mahama. Les partisans de Bawumia le considèrent comme l'homme capable d'aider le Ghana à sortir de la crise économique. Bawumia espère offrir au NPP un troisième mandat consécutif. Il a tenté de se distancer des critiques concernant la gestion de l'économie par l'actuel président Nana Akufo-Addo, même s'il était le chef de son équipe de gestion économique. Pour l'ancien président John Mahama, Bawumia est aussi responsable de la politique économique défaillante. Ses détracteurs affirment qu'il n'offre rien de nouveau après l'échec de ses candidatures à l'élection présidentielle de 2016 et 2020. L'inflation a chuté d'environ 54% à 23%, mais de nombreux Ghanéens s'inquiètent encore du coût de la vie. Le pays a obtenu un accord de crédit de 3 milliards de dollars avec le FMI. Bawumia et Mahama ont clôturé hier leur campagne. Les résultats de l'élection présidentielle et législative sont attendus mardi prochain.
Deux gendarmes ivoiriens interpellés en septembre 2023 au Burkina Faso dans un contexte de tension entre le Faso et la Côte d'Ivoire sont de retour dans leur pays, a annoncé jeudi à Abidjan le porte-parole du gouvernement. Les précisions de John Lindon.
Le Conseil des ministres a été informé de la remise à la Côte d'Ivoire de nos deux gendarmes arrêtés au Burkina Faso le 19 septembre 2023, alors qu'ils étaient à la poursuite d'orpailleurs clandestins, a indiqué Amadou Koulibaly. Cette remise a été effectuée le 29 novembre grâce à une médiation de la République togolaise, a-t-il ajouté, précisant que l'implication personnelle du président Faure Gnassingbé a permis le dénouement heureux de cette situation. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso Faso, qui partagent une frontière poreuse de quelques 600 kilomètres, entretiennent des relations tendues depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022. Le Burkina Faso a formé avec le Mali et le Niger une confédération, l'Alliance des États du Sahel. Le départ de ces trois pays de la CEDEAO devrait être effectif en janvier.
La Sierra Leone a lancé hier une campagne de vaccination nationale contre le virus Ebola, 10 ans après avoir été frappée de plein fouet par la maladie. Davantage avec Jacques Aristide.
La campagne, dirigée par le ministère de la Santé en partenariat avec l'Alliance vaccinale Gavi, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, va avoir lieu dans les 16 districts du pays. Elle démarre avec les 20 000 personnes les plus exposées en Sierra Leone, les premiers intervenants, les guérisseurs traditionnels, les chefs religieux et les forces de sécurité. Ils recevront une dose unique du vaccin Ervebo. À Freetown, la capitale, le gouvernement compte vacciner au moins 50 personnes par jour. Même si le traumatisme du virus Ebola est encore frais dans l'esprit des gens, certaines personnes hésitent à se faire vacciner, déplore Fodé Ambrose Mara, responsable des opérations à Freetown. La Sierra Leone, la Guinée et le Libéria ont été les pays les plus touchés il y a une décennie par la plus grande épidémie d'Ebola depuis la découverte du virus en 1960. La Sierra Leone, où la maladie a tué environ 4000 personnes entre 2014 et 2016, est la première de ces trois pays à donner le coup d'envoi à une telle campagne de vaccination anti-Ebola.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, le président Emmanuel Macron a reconnu jeudi que sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale en juin, qui a plongé la France dans une crise politique, n'a pas été comprise, assumant sa responsabilité dans une allocution au lendemain de la censure du gouvernement de Michel Barnier. Didier Dico fait le point.
Cette décision, beaucoup me l'ont reprochée et je sais, beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait et c'est ma responsabilité, a affirmé le président français dans une allocution télévisée, tout en accusant les oppositions d'extrême gauche et d'extrême droite de s'être unies dans un front anti-républicain. Emmanuel Macron a également assuré qu'il accomplirait son mandat présidentiel jusqu'à son terme en 2027, alors qu'un nombre grandissant de responsables politiques évoque sa démission au lendemain du renversement du gouvernement de Michel Barnier par l'Assemblée nationale. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme, a déclaré le président français en promettant de nommer dans les prochains jours un Premier ministre chargé de former un gouvernement resserré et d'intérêt général.
La Russie a averti qu'elle utiliserait tous les moyens pour défendre ses intérêts après le tir du missile Oreshnik fin novembre en réponse aux frappes ukrainiennes avec des missiles occidentaux. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a indiqué que Moscou enverrait d'autres messages si nécessaire, tout en critiquant le soutien militaire américain à l'Ukraine, qu'il qualifie de guerre hybride. Bien qu'il souhaite des relations normales avec Washington, Lavrov a mis en garde contre cette implication. De son côté, Vladimir Poutine a salué les capacités du missile, tandis que Volodymyr Zelensky a dénoncé l'attaque et appelé à une modernisation des défenses aériennes ukrainiennes. Un incendie délibéré a ravagé la synagogue Hadas Israël à Melbourne, Australie, ce vendredi à l'aube. Deux individus masqués, soupçonnés d'avoir utilisé un accélérant pour allumer le feu, sont activement recherchés par la police de l'État de Victoria. L'incident n'a fait aucun blessé, mais la synagogue a subi d'importants dégâts, détruisant des ouvrages religieux et du mobilier. La police de New York a diffusé de nouvelles photos d'un homme recherché pour le meurtre de Brian Thompson, dirigeant de United Healthcare, tué mercredi matin à Manhattan. L'enquête indique qu'il s'agit d'une attaque préméditée, ciblée. Le suspect, identifié par des vidéos de surveillance, a attendu sa victime avant de la battre et de fuir à vélo électrique. Thompson, dirigeant d'une entreprise assurant 51 millions de personnes, était une figure clé du secteur aux États-Unis. C'est tout pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique à présent, entre reprise du trafic sur le corridor Douala-Bangui, renforcement de la sécurité maritime en Guinée équatoriale et les nouvelles hausses des droits de douane par Donald Trump. Nous appelons Eric Manirakiza.
Le trafic des marchandises est transporté sur le corridor Douala-Bangui reliant le grand port camerounais et la capitale centrafricaine a commencé à reprendre jeudi après des accords passés entre les deux pays pour mettre fin à une grève lancée mi-novembre par les routiers camerounais. Alors que les routiers s'indignaient aussi des contrôles tracassiers et du rançonnement des autorités centrafricaines, Bangui a réduit le droit de passage des poids lourds de 25 000 à 10 000 francs CFA dans les accords signés pour lever le blocus selon le communiqué publié à Yaoundé. La Guinée équatoriale veut muscler son système de défense contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée avec des discussions en cours sur des offres d'équipements russes et chinois, a rapporté jeudi le site officiel du gouvernement de Malabo. Ce système comprend un radar et un contrôle capable de détecter des objets d'au moins de 2 mètres à une distance de 50 km selon la même source. Des entreprises américaines se disent inquiètes d'un rebond de l'inflation en raison notamment de la hausse généralisée des droits de douane annoncée par Donald Trump. Donald Trump a notamment d'ores et déjà promis des droits de douane de 25% contre le Canada et le Mexique, deux des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, théoriquement protégés par un accord de libre-échange.
Retrouvez maintenant les principaux résultats et analyses des grandes compétitions sportives dans notre rubrique signée Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Les demi-finales de la CAN féminine de handball se jouent aujourd'hui à Kinshasa en RDC.
Oui, la Tunisie se face au Sénégal et l'Angola affronte l'Égypte à 16h temps universel. Analyse sur place à Kinshasa avec Papi Katassi, journaliste sportif à Nyota Télévision.
L'Angola, Égypte et Tunisie-Sénégal, une affiche des demi-finales de la Coupe d'Afrique handball très équilibrée. Naturellement, se retrouve aux dernières carré de cette compétition, car surtout Asukeina Sagna, qui a été la révélation du côté des Lions de la Teranga, et bien sûr sa gardienne de justice, Elbe Katubisa, qui a fait un match plein face au Cameroun en quart de finale. La Tunisie, qui court derrière un quatrième titre continental, a disposé du Congo-Brazzaville, grâce surtout à demi-centre Achana Sondesh de Bruxelles Handball en Italie, et une très bonne équipe des Aigles du Carthage avec un moral vraiment d'acier.
Papi Katassi, journaliste sportif à Nyota Télévision, qui revient sur ce qui n'a pas marché pour le pays hôte, la RDC stoppée en quart de finale.
Composée de jeunes joueuses qui intègrent pour la première fois à la nationale, à l'image de l'arrière droite Alexandre Chounoutounou de Benfica, sous l'encadrement bien sûr de la vieille garde, hein, Moïssa, Mélissa, Agathe, Isor Moussabaou, malgré la volonté affichée, l'équipe a présenté une image un peu faible sur les plans physiques et dans les replis défensifs et surtout les contres. Mais l'élément fondamental reste en tout cas la mauvaise gestion à un certain moment du jeu du côté de la RDC qui a coûté cher à la bande de Francis Touzolana.
Papi Katassi, journaliste sportif à Nyota Télévision.
Tirage au sort hier du Mondial des clubs.
C'était hier soir à Miami, ici aux États-Unis, les quatre représentants africains à la Ligue d'Égypte, le Wydad Casablanca, l'Espérance de Tunis et le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud connaissent désormais leurs adversaires de la phase de groupe. Dans le groupe A, à la Ligue du Caire fera face au club hôte l'Inter Miami de Lionel Messi, un match d'ouverture de ce tournoi, puis au FC Porto et à Palmeiras. L'Espérance sportive de Tunis est logée dans la poule D et va affronter Flamengo, Chelsea et le club Lyon. Mamelodi Sundowns partage le groupe F avec Fluminense, le Borussia Dortmund et Al Houssan. Le Wydad Casablanca enfin est logé dans la poule G avec Manchester City, la Juventus Turin et Al Ahly. 12 équipes européennes, 6 sud-américaines, 4 africaines, asiatiques et nord-américaines. Une venue d'Océanie et l'Inter Miami du pays hôte sont en lice pour ce tout premier trophée de ce mondial des clubs à 32. La
compétition aura lieu du 15 juillet au 13 juillet 2025.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani de retour pour cette seconde partie de notre journal consacré aux taxes au Cameroun, l'impact régional de la première femme présidente en Namibie, Yakar 2030 au Sénégal et le quotidien des migrants à Agadir. Rendons-nous donc à Agadir et ses environs, situés au cœur de la région agricole de Sousmassa, l'une des plus fertiles et productives du Maroc. Plusieurs migrants subsahariens y vivent et leur nombre a considérablement augmenté ces derniers temps, ce qui n'est pas sans conséquence dans le douar d'Aït Amira, devenu pour certains d'entre eux le meilleur endroit pour s'en sortir et pour d'autres un tremplin vers l'Europe, quelles que soient les difficultés. Reportage Emmanuel Mouadidi Baye.
Armand Legré, président de la communauté ivoirienne d'Agadir et militant pour la cause des migrants subsahariens, vit dans cette maison avec sa femme. Il offre régulièrement son hospitalité aux nouveaux migrants, le temps de leur permettre de trouver du travail et un logement. Mais parfois, il est débordé à cause de leur afflux de plus en plus grand.
Dernièrement, il y a eu un refoulement au niveau de Layoun et Tantan. Donc ces personnes-là sont venues ici, ils sont là, ils sont installés ici, ils travaillent aussi dans les champs. Donc cela a fait qu'il y a eu un boom. La population a augmenté. Il y a même, comme on appelle ça, le manque de logement. Parce qu'à présent, c'est la traite pour le travail. Il y a des gens qui quittent à Casa pour venir aussi travailler dans les fermes, soit dans les usines pour les emballages. Mais il n'y a pas de... Pour avoir les maisons, c'est difficile. Et puis ensuite aussi, les bailleurs aussi, comme ils savent qu'il y a beaucoup de subsahariens qui sont là, ils ont augmenté des chambres que les gens payaient avant à 310 dirhams. Maintenant, c'est devenu à 800, à 600, à 700.
Armand Legré tient régulièrement des réunions avec d'autres subsahariens afin de trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. Certains, bien que diplômés, ont dû se reconvertir pour travailler dans les champs agricoles ici à Aït Amira. D'autres y sont par défaut de régularisation de leur séjour.
À Rabat, c'est très très difficile. C'est capital. Pour payer les maisons, manger, c'est très difficile. Mais ici, là, quand même, on ne peut pas garder l'argent. Mais l'argent qu'on a ici, pour manger, pour payer mes hommes, pour attendre, tout ce qu'elle dit, quelqu'un va venir pour les dire. Mon sens vient, je vais laisser le travail là pour faire l'autre travail comme j'ai fait la comptabilité.
J'étais en manque de documents ici un moment. En fait, le passeport était expiré, bon, donc il fallait le travail que je cherchais. Je partais dans les centres d'appel pour mieux structurer ma vie, quoi. Mais finalement, à chaque fois, à chaque rencontre avec les directeurs des centres de formation, des centres d'appel du moins, m'ont posé de chercher la carte de séjour. Finalement, j'ai dit nécessaire de revenir vers Agadir pour m'intégrer par rapport au travail du champ ici. Quoi.
Selon Armand Legré, malgré le nombre élevé de migrants qui ont perdu la vie dans la mer en voulant continuer vers l'Europe, il y a encore 45% au moins qui font d'Aït Amira leur tremplin afin de pouvoir braver de nouveau la mer.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Cameroun, la déclaration des revenus annuels pour les personnes physiques, IRPP, suscite des débats, notamment dans le secteur informel. Les contribuables camerounais, les étrangers résidents et ceux ayant des activités professionnelles ou non ont jusqu'au 9 décembre pour se conformer à l'administration fiscale. En cas de non-déclaration, des sanctions financières, des restrictions sur l'obtention de visa, des transactions bancaires ou des services d'eau et d'électricité pourraient être appliquées. Reportage sur place à Yaoundé de notre correspondant Emmanuel Juntap.
Selon la loi fiscale, le taux d'imposition sur le revenu des personnes physiques est de 5,5% sur tous les revenus perçus au cours d'une année fiscale après un abattement forfaitaire de 500 000 francs CFA. Mouliom Mazou est un fiscaliste.
Il y a un déficit de communication sur cette réintroduction du paiement de l'IRPP par les contribuables camerounais. Il faut dire que ça existe depuis longtemps. Et en 2004, on avait suspendu le recouvrement de cet impôt-là auprès du certaines catégories de population. Et avec l'évolution du temps, nous nous sommes rendus compte que l'administration fiscale a trouvé des moyens plus efficaces de procéder à ce recouvrement.
Il s'agit, selon la Direction générale des impôts, d'une contribution à l'effort collectif qui concerne les Camerounais dont les revenus proviennent de l'extérieur, les étrangers résidant au Cameroun, tous les salariés, les retraités et commerçants, ainsi que les personnes ayant des revenus même issus des activités agricoles ou du bail. Thierry Lopez, contribuable. Non professionnels.
Il y a des gens qui sont des milliardaires, ça ne vaut pas la peine de les mettre en prison, qu'ils donnent un peu de ce qu'ils ont, ça nous allège un peu la tâche. On sort comme ça pour chercher 1000 francs. Depuis le matin, nous, vous voyez, nous sommes peut-être à 14-15 heures, moi je n'ai pas, je n'ai rien, je n'ai même pas encore mangé, mais je dois payer cet impôt-là. Si l'État ne t'aide pas, l'État ne te donne pas, il veut prendre sur quoi?
Les Camerounais résidant à l'étranger et qui perçoivent des revenus issus de leur investissement dans leur pays d'origine sont également assujettis au paiement de l'IRPP. Pour Nadine Tiongui, des clarifications s'imposent.
Je suis tombée sur un TikTok ce matin, justement, où les gens qui étaient à l'étranger se demandaient leur employeur qui retient déjà la source là-bas. Comment font-ils qu'ils vont encore payer?
Louis-Marie Cardeux, économiste et militant du SDF, un parti de l'opposition, ne trouve aucun inconvénient à l'option prise par le gouvernement d'élargir l'assiette fiscale par le paiement de l'IRPP. Toutefois, l'économiste questionne l'utilité publique des impôts collectés au Cameroun.
Le citoyen qui paie l'impôt devrait avoir une compensation à travers les actions publiques. Dans un pays où, d'une part, le pouvoir d'achat est trop bas, les revenus sont très faibles, les salaires sont trop bas, les gens estiment que, en fait, on ne devrait plus prélever le peu qu'ils ont. L'équation à résoudre dans notre pays est celui de relever le niveau de vie des Camerounais.
Les fiscalistes affirment que le Cameroun est également dans un engrenage mondial de l'uniformisation du système fiscal. Mouliom Mazou est un fiscaliste.
Avec le temps, on sera obligé de payer parce qu'en dehors de ces exigences au niveau national, il y a également une pression internationale sur la nécessité de l'uniformisation du système fiscal.
L'administration fiscale n'envisage pas pour le moment de faire appliquer les sanctions contre les contrevenants. Emmanuel Junta, pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La Namibie a élu sa première femme présidente, Netumbo Nandi-Ndaitwah, 72 ans, issue du parti au pouvoir, la SWAPO, dès le premier tour avec 57,31% des suffrages, a annoncé mardi soir la commission électorale du pays. Pour discuter de l'impact de l'élection de cette femme dans la sous-région, Eddie Isango a joué en Afrique un expert en relations internationales, Achille Mbembe.
Il faut en faire une lecture régionale. Il y a eu des élections en Afrique qui se sont soldées par un recul substantiel de l'ANC. Il y en a eu au Botswana où on a assisté à une alternance au pouvoir dont la signification est tout à fait évidente. Il y en a eu au Mozambique où les choses se sont très mal passées. Le pays est en crise en ce moment. Et donc la Namibie est dans ce cadre-là, disons, un motif de relative satisfaction. Et d'abord, une femme arrive au pouvoir. Et c'est vrai qu'elle fait partie du parti qui a régné en Namibie depuis l'indépendance. Mais néanmoins, cela est un pas extrêmement important.
Voilà, vous l'avez dit, une dame a été élue présidente en Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah. Mais qui est-elle, en fait?
Mais c'est une dame qui est très connue en Namibie, qui a été dans les cercles du pouvoir depuis très longtemps, qui fait partie de la SWAPO, le parti au pouvoir depuis les indépendances, et qui est connu pour son énergie, son franc-parler, et on l'espère, maintenant qu'elle est au pouvoir, qu'elle pourra mettre en place les réformes nécessaires pour approfondir la démocratie en Namibie, et surtout pour faire en sorte que les femmes et les jeunes en particulier puissent a bénéficié de son accession au pouvoir. Et donc, voilà un certain nombre de défis qui se posent à elle dans un pays plutôt, disons, stable et relativement calme.
Et que dites-vous de revendications de l'opposition qui n'accepte pas ces résultats? La Chapo, qui est au pouvoir depuis 1990, a encore gagné les élections.
Mais c'est un peu le syndrome des anciens mouvements de libération. C'est le cas en Namibie. Évidemment, c'est pas aussi violent qu'au Zimbabwe. C'est le cas au Zimbabwe surtout. C'est le cas, évidemment, au Mozambique. Partout dans ces pays, les mouvements de libération ont eu de la peine à se transformer véritablement en parti politique démocratique.
Achille Mbembe, expert en relations internationales. Au Sénégal, le coup d'envoi d'un important programme associatif à destination des jeunes, baptisé Yakar 2030, a été lancé ce mardi à Dakar avec un investissement de 20 millions de dollars. Parmi les projets qui visent l'autonomisation des jeunes, la construction d'une dizaine de centres d'ici 2025 dans différentes régions du pays sur le modèle du CEDEPS de Guédiaouai en banlieue de Dakar, où nos correspondants Alison Fernandez et Mustapha Diène se sont rendus. Suivez.
Originaire de Pikine, en banlieue de Dakar, Laïla Diakité est étudiante à l'université numérique Cheikh Hamidou Kan. En troisième année d'administration économique et sociale, elle suit pratiquement tous ses cours en ligne. La plupart du temps, elle vient réviser ici, à la médiathèque du CEDEPS, ou Centre départemental d'éducation populaire et sportive de Guédiaouai, qu'elle a connu l'an dernier par le bouche à oreille.
C'est tranquille et on a accès aux ordinateurs. Parfois, quand nos machines sont en panne, je peux venir ici, je prends la machine et c'est ouvert pour tout le monde. Et c'est gratuit.
Son temps libre aussi, Laïla le passe ici, notamment à la bibliothèque et au club de littérature qu'elle fréquente chaque semaine.
Quand on veut emmagasiner notre niveau de français, le club nous propose de lire et nous conseille toujours de lire les livres. Ça m'a permis de connaître certains auteurs à travers ce club et aussi on avait une fois échangé avec un auteur.
Les CEDEPS existent depuis 1974 au Sénégal. Celui de Guédiaouai était géré par l'État jusqu'au début des années 2020, où il a alors été confié au Consortium Jeunesse Sénégal, qui regroupe une multitude d'associations et mouvements de jeunes et qui a bénéficié d'un appui financier de l'Union européenne. Sobel Aziz Ngom est le président et directeur exécutif du consortium.
En 2024, les jeunes ont des aspirations grandes et il leur faut avoir accès à ces espaces-là. Le problème, c'est que ces espaces existants, avec le temps et la centralité de la gestion par l'État, n'ont plus réussi à offrir aux jeunes ce dont les jeunes avaient besoin aujourd'hui. Et donc, quand on a mis en place le consortium jeunesse, on s'est dit que, au lieu de construire un autre building qui soit le nôtre, essayons de nous réapproprier des espaces publics qui existaient pour les jeunes et de les transformer.
Véritable lieu de vie, le centre est aujourd'hui fréquenté par plus de 100 jeunes chaque jour. Achille Hervé Djikoun, animateur socio-éducatif, travaille au CEDEPS depuis 2015. Il a assisté à la mue du centre et se réjouit de son impact sur les jeunes de la banlieue, grâce notamment aux formations professionnalisantes qu'il propose, comme ici, au métier de la couture.
Il y a beaucoup de jeunes qui aiment ça, mais qui n'étaient pas formés. Donc pourquoi pas ne pas mettre en place une salle de couture pour permettre à ces jeunes-là d'être formés.
Laïla Diakité a également bénéficié d'une formation grâce au centre en management sportif. Différentes formations ou activités sont proposées pour encourager les jeunes à entreprendre et leur permettre de s'insérer sur le marché de l'emploi. Mamadou Ngom est le responsable du suivi évaluation.
On est aussi parti d'un constat que beaucoup de jeunes diplômés ne savent pas comment monter leur candidature pour s'insérer professionnellement. C'est la raison pour laquelle on organise des formations sur comment on fait un CV, comment on fait une lettre de motivation pour pouvoir les aider.
En 2023, 400 jeunes ont pu créer leur entreprise après une formation au CEDEPS et 300 autres ont trouvé un stage ou un travail dans une entreprise. Grâce au programme Yakar 2030, le consortium entend dupliquer le modèle du CEDEPS de Guédiaouai dans 10 autres régions du pays. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Ainsi s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Un grand merci à toute l'équipe de production et à nos correspondants sur le terrain pour leur précieuse contribution. Au micro, Nanit Talani, à la réalisation, Firmé Max Kouyaouida, à la technique, Kelvin Fowler. Pour ne rien manquer de l'actualité, rendez-vous sur notre site voaafrique.com et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. L'équipe de la VOA se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Au revoir.